Bonjour, chers auditeurs, auditrices de Derrière l'image. Toujours une heure de cinéma à Radio Centre-Ville. Guy Ménard, animation, accompagné de Pierre Pajot. Bonjour, Pierre.
Bonjour, Guy.
Et Maxime Duquette, à la régie, parce que des fois, on l'oublie à la toute
fin. On oublie Maxime, malheureusement.
Mais là, on va le mentionner tout.
Que serions-nous sans lui?
On aurait des problèmes. Donc, voilà. Et pour ce deuxième segment, nous recevons un réalisateur de... Enfin, un film qu'on a beaucoup, beaucoup aimé.
Beaucoup.
Beaucoup aimé. Et Symphonie en aquamarine. Hein? Dan Popa. Bonjour, Dan.
Bonjour.
C'est la mer. C'est l'eau. Hein? C'est la présence, finalement, de tous ces hommes près de l'eau. Et en quatre mouvements.
En quatre mouvements. C'est bien distingué, oui.
Et le premier mouvement, on est en Roumanie, où en fait, il y a le départ au Québec, et très rapidement, on s'en va en Roumanie. Ouais. Et là, je me disais, pourquoi la Roumanie? Puis là, en fouillant un peu, il y a des origines roumaines chez vous, hein? Donc, il y a comme un retour aussi aux sources à travers ce projet-là?
Oui, définitivement. Je veux dire, la Roumanie s'est imposée comme quelque chose, si on veut, un peu plus naturel. Je suis d'origine roumaine, je suis né en Roumanie. Près de l'eau, pas nécessairement, mais on passait tous nos vacances près de l'eau. Donc oui, près de l'eau, c'est-à-dire que j'ai toujours associé l'eau à l'été et au bonheur de mon enfance. Donc, mais j'ai quand même grandi dans la capitale, où il y a un petit cours d'eau du Danube, mais pas beaucoup plus. Mais oui, c'est vraiment... C'est la mer Noire qui est présente dans ce film-là fait quand même partie intégrale de où je viens.
OK. Est-ce que tu pratiquais le surf?
Trop heureux, je pense, pour le surf.
Non, donc c'est vrai, la mer a un côté de vacances, là, mais elle part un côté de travaux plus difficiles.
Moi, ce qui m'a vraiment beaucoup intéressé dans la mer, c'est vraiment cette dualité du bonheur extrême et en fait la peur extrême aussi, de l'infiniment grand et l'infiniment petit. C'est à la fois c'est réjouissant, on veut se baigner, mais d'un autre côté, en tant qu'humain dans l'eau, on n'est pas fait pour ça. Donc, il y a vraiment ce côté très, très grand aussi, très surmesuré par rapport à la grandeur de l'homme. Donc, c'est vraiment ces deux extrêmes-là qui m'ont beaucoup intéressé. Et je pense que le film parle de ces deux extrêmes-là. Donc, il se baigne entre l'espèce de loisir, de plaisir, mais aussi
d'immensité,
de force de la nature et de la fragilité aussi de l'homme.
Parce que même un des personnages le mentionne, on peut rien contre la mer. Je veux dire, ça va toujours être elle qui va l'emporter. Et si on est incompétent, finalement, on n'a pas à naviguer. Et donc, tu mets assez bien en évidence cette grande force de la nature.
L'océan ne supporte pas les incompétents.
Ouais, que j'aime beaucoup comme phrase.
Hein. Ouais, tu y tenais à ce que ça soit dans le film, cette phrase-là.
Oui, quand je l'ai entendue, je pense qu'elle a une grande justesse. Et puis, je crois que dans sa simplicité, elle exprime parfaitement tout. Donc, oui. Non.
Et oui, il y a ce travail visuel dont on parle, mais aussi un travail sonore. Parce qu'on sait Symphonie en aquamarine, donc c'est Benoît Dame.
Benoît Dame, il faut le nommer, on le connaît lui depuis longtemps, c'est un des grands qu'on a au Québec. Alors, tu as travaillé avec un très bon...
C'est important pour toi d'aller chercher toute cette dimension sonore et pour afin de presque de redonner une grandeur à l'eau, parce que c'est un petit peu ça, hein? On joue beaucoup sur les nuances, mais quand arrive, je veux dire, toutes ces dimensions sonores, on voit, on entend, puis on voit encore plus, finalement, cette force, cette élégie, on pourrait dire, de l'eau. Donc ça, c'était dans le projet vraiment initial, où ça s'est imposé au moment du tournage?
Ça s'est imposé, je veux dire, Benoît Dame a fait un travail colossal dans le film, et c'était vraiment cette conversation, cette ouverture de pouvoir dialoguer toujours avec lui pour balancer un peu l'image et le son, c'est-à-dire que les deux devaient toujours travailler en synchronie et même en désynchronie, parce qu'ils sont désynchronisés parfois. Et justement, de voir un peu ensemble, c'est comme si on jouait chacun des instruments. Donc, j'ai joué l'image, Benoît a joué le son, et on a essayé d'accorder tout ça ensemble pour arriver à en faire une pièce ensemble, tout en toujours essayant de laisser de la place pour le spectateur au centre. Donc, vraiment, de jamais plaquer trop le son et l'image pour fermer un plan. Donc, toujours garder une espèce d'ouverture et quelque chose qui plane un peu. Donc, on était vraiment à ce niveau-là, essayer de travailler un peu la psychologie des personnages avec le son, où ils sont. Pour moi, la musique, par exemple, est une musique, mais c'est aussi la voix intérieure du personnage qu'on n'entend pas. Donc, il y a vraiment... On a beaucoup, beaucoup travaillé sur le son.
J'aime ça, cette idée-là de la voix intérieure. Moi, j'ai reçu ton film comme un film musical. Il y a quatre parties. C'est comme dans une compose, une sonate. Je sais pas si t'es un âme de musicien, si t'aimes beaucoup la musique, mais pour moi, c'est un film d'un musicien. C'est un film d'un cinéaste, mais c'est un film d'un musicien. Et les quatre moments de la symphonie, hein, le titre, elles sont là. Mais là, cette phrase-là, je l'aime bien. Donc, il y avait une dimension voix intérieure.
Oui, oui, en fait, ce qui arrive avec cette musique-là, c'est que on l'entend dans le premier mouvement. En fait, on n'entend pas dans les premiers mouvements. On n'entend pas encore de chants.
Non.
Les chants viennent juste au deuxième, quand le personnage est un peu plus loin. Et ensuite, plus le personnage se distance de son origine, plus ces voix-là s'amplifient. Et donc, plus on entend cette espèce d'appel vers, les origines du début. Donc elle sert vraiment pour moi un peu de voix intérieure du personnage.
Okay.
Et... Donc, c'est comme ça qu'on l'a conçu. La structure narrative, elle est beaucoup basée sur la construction symphonique. Je ne suis pas musicien, mais c'est vraiment en regardant comment, par exemple, un mouvement commence et se replie sur lui-même tout en donnant début à un prochain mouvement et
toujours.
Le troisième mouvement, qui était une valse dans le film, est beaucoup plus, plane beaucoup plus, c'est un peu plus long que les autres. Et ensuite, le quatrième, lui, vient... revenir comme le début, comme le premier avait commencé.
C'est comme ça que ça se construit.
Donc, c'est vraiment... C'est exactement. Donc, c'est très classique comme construction.
Je l'ai reçu exactement comme ça.
Oui.
Mais c'est intéressant parce que il y a l'image, il y a le son, puis il y a cette voix intérieure dont tu parles, qui est aussi la voix off, qui est le récit de Maxime, qui lui aussi est en contrepoint dans certains cas et qui nous amène toujours vers la rêverie, à rêver de cette eau. Donc, il y a... ce passage obligé vers la mer, mais il y a également toutes ces rêveries que la mer peut susciter chez quelqu'un qui se retrouve d'ailleurs à des kilomètres et kilomètres de chez toi, chez lui sur un bateau.
Oui, tout à fait. Cette rêverie-là, elle est vraiment venue aussi en discutant beaucoup avec les marins qui étaient sur le bateau. Surtout, à partir d'un certain parallèle, les gens me contaient que leur rêve devenait de plus en plus... vif, plus on avançait. Bien sûr, quand on est quand même souvent bercé sur ce bateau-là aussi, et puis les journées deviennent de plus en plus longues, parce qu'on navigue l'été, plus on monte, moins de noirceur. Et vraiment, ça y a quelque chose que les marins, c'est que certains m'ont dit vraiment, où leurs rêves deviennent excessivement visibles, excessivement visuels.
Okay.
Et donc, à partir de ça, ça m'a un peu guidé aussi pour le film, en mettant cette espèce de voix qui raconte une espèce de légende ou une espèce d'épopée, une fable, dans une certaine façon. Qu'on y croit ou qu'on y croit pas, j'espère qu'on y croit pas trop, mais elle nous guide vers quelque chose pour nous revenir de temps en temps.
Oui.
Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'effectivement, on y croit pas, mais à la toute fin, lorsqu'arrive le générique, le fameux Maxime est au générique. Et là, on se dit, attends, là, ce personnage, cette voix off, existe. Parce que moi, je le voyais comme un essai cinématographique. Ton film, pour moi, c'est un essai cinématographique.
Il y a une dimension, essai.
Oui, à la Chris Marquet, et ainsi de suite. Et là, tout d'un coup, je regarde ça, je dis, OK, cet essai-là s'enracine peut-être dans le réel. Et que peut-être ce Maxime-là existe, et sûrement, et que c'est son histoire à lui également. Est-ce que c'est le cas?
Je laisserai le doute planer.
Mais aussi, le fait
bon prophète, hein?
Regarde, à la fin, on apprend que pour chacun des mouvements, il y a un lieu géographique précis. Oui. Alors ça aussi, j'ai trouvé que c'était drôle, parce qu'à la toute fin, c'est comme si... Le film est comme tout un peu mythologique, je sais pas quoi. Tout à coup, non, ça c'était le Labrador, là, la mer du Nord. Alors c'est comme là, tout à coup, ça devenait bien concret.
À chaque fois que cette voix off apparaît de Maxime, vous filmez des jeunes adultes. Donc, il y a plusieurs maximes peut-être dans le film, mais c'est souvent associé à ces jeunes adultes. À la limite, je dirais les enfants qu'on voit dès le début et à la fin qui sont pas anodins. Donc, il y a quelque chose ici, là, je veux dire, qui se trame derrière cette symphonie. Là. Il y a un propos, il y a une volonté aussi de raconter une odyssée peut-être de quelqu'un qui, pour la première fois, ouvre un livre et qui voit ses images de la mer puis qui rêve à des grandes, grandes aventures. Donc, c'était cette volonté, je veux dire, d'ouvrir comme ça ces pages de livres puis de laisser rêver également les spectateurs à ce que peut être le monde de la mer.
Je vous l'avais très, très bien expliqué. Je ne pourrais pas répéter ce que vous avez dit. Mais tout à fait, il y avait vraiment cette volonté aussi de laisser les gens rêver vers la mer, mais aussi d'avoir cette histoire qui est là, cette histoire d'imagination. C'est à partir de ce personnage qui serait Maxime, cette idée d'avoir quelqu'un qui rêve tout le temps, d'avoir quelqu'un qui est inspiré par la littérature, d'avoir quelqu'un qui est inspiré par ce romantisme du voyage aussi. Là, je veux dire, les contes marins existent depuis aussi longtemps qu'on s'est navigué. Oui, l'Odyssée, exactement. Donc, il y a certaines mêmes traces de l'Odyssée là-dedans. L'auteur, par exemple, qu'on parle au début, il n'est jamais mentionné dans le film, mais c'est Joseph Conrad qui partait de la Pologne pour se rendre dans la marine marchande britannique, qui considérait que c'était le summum, et donc c'est basé un peu même sur sa propre biographie d'une certaine façon. Le personnage de Maxime vient d'une certaine façon à symboliser tout le désir et tout le rêve et tout l'illusion et le romantisme qu'on se met dans la vie à vouloir grandir et être autre chose.
Et dans le réel, parce qu'il y a un moment où un des personnages dit « je veux pas vivre virtuellement ». J'ai pas, finalement, oui, je pourrais aller voir ces images, ce qu'on fait en tant que spectateur, finalement, mais j'ai le goût, finalement, d'être enraciné dans le vrai, de toucher du vrai. Et donc, ça aussi, je veux dire, c'est quelque chose d'important, là, de pouvoir de traduire, finalement, un monde imaginaire, mais d'y rajouter cette dimension documentaire, réel, pour arriver à pouvoir nous faire vivre ce que ces gens-là, pendant un certain temps, vivent à l'état brut. Là.
Je vais ajouter aussi, moi je trouve qu'il y a une dimension, j'allais dire folklore, mais il y a plusieurs scènes, et là c'est comme, tantôt on parlait de la Roumanie, là, je trouvais que c'est comme il y avait aussi un enracinement dans une histoire, tu sais, ces gens-là qui dansent à l'ancienne, mais ils témoignent de cette histoire, donc d'un réel aussi qui est autour, qui est vrai, qui est donc pas seulement le fantasme. Tu voulais aussi qu'il y ait cet équilibre peut-être avec le...
Ah oui, tout à fait, tout à fait. Je veux dire, le film est tourné dans un monde contemporain, mais c'est un monde contemporain qui garde des vestiges de tout son passé. Voilà. Je veux dire, la compétition, par exemple, quand on voit des bateaux du 17e siècle qui sont encore c'est comme un car show, mais une émissité pour les bateaux. Mais on garde toujours ces choses-là, les danses traditionnelles, par exemple, bretonnes, que les gens refont, de génération après génération. Donc, tout ça m'intéressait énormément. Et puis, encore une fois, si on rentre dans l'idée de la fable ou l'idée de la transmission de la même histoire, parce que l'histoire du film, je peux pas dire au final, parce que peut-être... Mais au final, elle est très simple. Mm-hmm. C'est une simplicité d'une ou deux phrases. Mm. Mais c'est comment on se rend là. Cette histoire-là, elle est répétée mais depuis des centaines et des centaines d'années. C'est un peu comme la solitude d'un marin. Je veux dire, un marin qui s'en sédait seul il y a 600 ans, on le fait de la même façon aujourd'hui.
Sûrement.
Donc, cette idée de le prendre en vrai, de le toucher en vrai, ce désir-là d'aller vers la vie, je pense que le garçon le décrit très bien et d'une façon très mature, tout en comprenant qu'il est sur le point de comprendre ce que la vie va lui réserver.
Donc, je vous rappelle que nous sommes avec Dan Popa afin de parler de Symphonie en aquamarine. Bien sûr, on a parlé beaucoup de la réalisation, mais également, vous étiez directeur photo, vous avez fait le montage.
Oui, on a.
Puis, j'aime ça revenir sur la direction photo parce que ces quatre segments sont un peu filmés différemment. Hein? Donc, on est dans l'aspect sensoriel, mais lorsqu'on est dans le bateau, on est beaucoup plus près des gens, on est souvent de dos, alors que dans certains autres plans, on ouvre finalement sur cette étendue-là. Donc, ça aussi, ça s'est imposé ou c'est à force de naviguer avec eux que là, vous êtes dit, bon, je pense que dans ce cas-ci, c'est ce cadre-là que j'ai de besoin?
J'essaie de répondre assez courtement. Donc, j'ai quand même eu la chance, en montant et en tournant mon propre film, de travailler sur 4 ans. Donc, okay. Ce que je faisais, c'est que j'allais tourner une scène, je regardais les rushs, je faisais un pré-montage, et ensuite, je commençais à voir qui sont les personnages, je commençais à voir toutes les répétitions qui se passaient dans la vraie vie. Donc, je donne un exemple, si j'ai vu un garçon en Roumanie qui rentre avec un chandail rouge du côté droit du cadre, et que je revois dans la vraie vie, 1 an ou 2 ans plus tard, quelqu'un en Bretagne qui lui ressemble avec le même chandail qui rentre par la gauche, je sais que j'ai mon champ contre champ, tout à coup. Et je suis capable de commencer à monter toutes ces choses-là à travers le temps. Parce qu'au fond, le film est une construction complète. Ces quatre univers-là, on y croit, mais c'est une construction. Donc, de cette façon-là, pour moi, ça m'a beaucoup permis de maintenir ce rapport au temps aussi, de pouvoir tourner et monter. Tous les mouvements sont un peu différents. J'ai toujours essayé de respecter le plus possible le rythme de chaque scène, d'une certaine façon. Parce que je pense que chaque élément qu'on filme a son propre rythme visuel. Et ensuite, comment est-ce qu'on traduit cette chose-là? Par exemple, le troisième mouvement qui lui se passe avec la marine marchande dans l'Arctique, c'est lent, c'est long le processus du bateau est lent. C'est Montréal-Québec, 3 jours, et c'est pas 3 heures. Donc on est toujours un peu, j'ai toujours essayé de prendre un peu cet aspect du rythme que la scène imposait sur elle.
Oui, parce que c'est une note que j'avais prise, comme un respect pour moi de la durée. En tant que spectateur, je mentionnais, là, c'est un film très sensoriel, parce que on est au même rythme que les gens que vous filmez.
Moi, oui. Hein?
Et ça, c'est pour moi la force du film. Parce qu'on aurait pu le trafiquer, on aurait pu l'ajuster au goût du jour, alors que non, il y a comme une volonté de nous faire vivre presque au quotidien cette aventure.
Quand tu écoutes le hockey, moi, ça m'a frappé.
Là, tout à coup, classique.
Il y avait un film qui était sur une vision de l'océan, mais là, concrètement, le gars sur le bateau, là, lui, là, Il y a un rythme, là, il y a une durée, là, qui est juste... faut que je passe le temps et je vais écouter un peu. C'est comme là, ça faisait comme une petite mini-parenthèse, mais ça cadre, parce que c'est toujours la question de ton mot solitude, là, je sais pas trop. Hein, il y avait comme... c'était mini, mais ça peignait le portrait.
J'ai toujours essayé de garder certains de ces petits éléments, justement, quand ça devient trop gros et que, bon, on a le gros iceberg et tout. C'est vrai, mais au final, t'as un adulte qui joue, par exemple, au hockey, sur sa manette, mais qui a l'air d'un gamin. Même si c'est celui qui prend le crane pour débarquer les gros containers dans le milieu de l'Arctique, il y a tout de même cette humanité et ce côté enfantin qui lui demeure aussi. Et il y avait beaucoup d'éléments. J'avais un équipage excellent. J'avais beaucoup, beaucoup de beaux moments aussi. Ils ont toujours des napperons aussi de welcome, bienvenue quand on mange. Donc, on peut être à moins 40 dans le milieu de nulle part, mais cette espèce d'aspect humain, on est encore dans une cantine et on mange tous ensemble, comme si on était au restaurant. Il y a quelque chose de très touchant, je trouve, dans certaines choses comme ça.
Et ce qu'il faut aussi mentionner, c'est que ce film est fait pour le grand écran. Il y a des films que parfois on pourrait dire, bon, on pourrait les voir dans d'autres plateformes. Alors que pour moi, c'est un film. On parlait de la durée, on peut parler de l'espace. J'ai l'impression, en tout cas, ça a toujours été pensé pour être vu sur un grand écran, avec le son qu'on a de besoin. Et là, on est dans le monde du cinéma. Là. On est vraiment dans les entrailles du cinéma.
Oui, tout à fait. Je pense que c'est, mis à part le son, l'image et tout, je pense que ce que le cinéma offre aussi beaucoup, c'est cette possibilité de s'enfermer et de juste recevoir cette chose et de prendre le temps de le sentir, en fait. Et je crois que c'est peut-être ça le plus gros atout qu'un cinéma peut offrir au film. C'est cette espèce d'endroit presque confessionnal où on est en silence, où on est pas en silence, mais on est juste en écoute active et on a le temps de respirer et de vivre le film.
Donc, merci beaucoup, Dan Papa. Donc, le film a pris l'affiche hier à la Cinémathèque. C'est-tu seulement que la Cinémathèque? Es-tu présenté en d'autres salles? J'ai pas fait mes recherches. Je me cherchais mes feuilles.
Non, il n'y a aucun problème. Donc, oui. Donc, il sera aussi à partir du 28 septembre au Cinéma Moderne.
Oui.
Et également, peux me permettre, il y a aussi à la Cinémathèque québécoise une exposition dans la salle Norman McLaren qui s'appelle Partition pour Aquamarine. Et donc, c'est une variante en exposition, je vous dirais, du sentiment de ce film, d'une certaine façon. C'est une autre façon de revoir le film.
Puis on remercie Postmoderne parce que je sais qu'il y a beaucoup, qu'ils ont beaucoup aidé. Hein?
On remercie Postmoderne, le Conseil des arts du Canada ouais. Et tout le monde. Oui, s'il vous plaît. Ils ont été très, 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 très sympathiques pour aller avec moi.
Merci beaucoup, Dan Papa. Donc, nous invitons à aller voir ce magnifique film Symphonie en aquamarine.
C'est moi qui vous remercie. Merci.